soir, célébration le 9 décembre de la journée mondiale de lutte contre la corruption. En RDC, un pacte national anticorruption a été signé entre le secteur public, privé et la société civile. L'objectif étant notamment de respecter les règles de bonne gouvernance pour l'amélioration du climat des affaires. Comment analyser cette initiative? C'est le thème que nous abordons ce soir. Nous recevons comme invité professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle OCEP, une structure qui dépend du ministère de la fonction publique. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, bonsoir. Professeur. Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO. Monsieur Mpararo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo et analyste politique. Monsieur l'Abbé, bonsoir. Monsieur l'Abbé Mugaruka. Voilà, nous allons le retrouver dans un tout petit moment. À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le monde entier a célébré lundi 9 décembre la journée de lutte contre la corruption. La corruption, un fléau qui ronge la société, engendre des conséquences néfastes dans la vie et le vécu quotidien des citoyens. C'est ce que pense le père Zénon Sendeke, philosophe et psychopédagogue basé à Kisangani en province orientale. Il s'exprimait à l'occasion de cette journée. On l'écoute au micro d'Aliana Alipanagama.
La corruption, faut le prendre à plusieurs niveaux d'abord, parce qu'on peut corrompre moralement, on peut corrompre avec de l'argent, on peut corrompre en faisant des cadeaux, donc il y a plusieurs sortes de corruption. Mais prenons la corruption dans le sens habituel dans notre pays, c'est donner de l'argent à quelqu'un, Made Swabana, pour qu'il te rende un service entre guillemets à ce moment-là, pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Ça, c'est la corruption vraiment à combattre. Et pourquoi il y a tout ça? C'est parce que beaucoup de gens ne sont pas bien payés. Dans notre pays surtout, si la police, les militaires, les fonctionnaires de l'État, les enseignants, si tout ce monde avait un salaire décent et bien payé, il serait difficile de corrompre un homme pareil comme dans d'autres, sous d'autres cieux. Puis il y a la sensibilisation, bien sûr, parce que peut-être que les gens ignorent aussi c'est quoi la corruption. L'éducation de cette jeunesse, à l'école maternelle, primaire, secondaire, à l'université, il est temps de les aider à sortir de ce grand fléau que j'ai appelé le virus.
Professeur Saint-Augustin Mwendambali, vous êtes directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle OCEP, une structure qui dépend du ministère de la fonction publique. Professeur, avant que l'on aborde l'aspect lié au pacte national anti-corruption, professeur, commençons par les causes. Pour vous, quelles sont les causes de la corruption en RDC? On a suivi le père Zénon Sendeke qui parlait notamment de la modicité des salaires.
Votre correspondant vous a mis en attente. Restez en ligne.
Voilà, professeur, nous allons retrouver tout à l'heure le professeur Saint-Augustin Mwendambali. Ernest Mpararo, est-ce que vous êtes en ligne?
En ligne, s'il vous plaît.
Voilà, je vous repose pratiquement la même question. Pour vous, quelles sont les causes de la corruption en RDC avant que l'on aborde le pacte national anticorruption et les solutions?
Effectivement, parmi les causes, nous pouvons citer par exemple le manque de démocratie réelle dans le pays. Il y a la pauvreté, il y a l'analphabétisme de la plus grande majorité de la population congolaise qui peine à revendiquer ses droits. Il y a les inégalités socio-économiques ou sociopolitiques. Il y a parmi les causes aussi, il y a par exemple la distribution inéquitable des revenus nationaux. Tout cela entraîne à faire à ce que la plupart des Congolais se donnent à la corruption.
Alors, est-ce que la pauvreté, par exemple, ça peut être une raison, Ernest Mpararo, du moment qu'il y a quand même l'aspect moral qui existe aussi, l'aspect moral et éthique?
Oui, comme vous le savez, l'aspect moral, ça fait partie, mais cela... quelqu'un qui a faim, bon, même s'il pouvait résister à toutes sortes de tentations, ce sera difficile qu'il résiste, étant donné qu'il voit l'argent là-bas et ses enfants ne partent pas à l'école. Tu vois que ça fait. ça entraîne à ce que quelqu'un puisse se donner à la corruption.
Alors, vous avez suivi la signature du pacte anti-corruption lundi dernier entre la société civile, les secteurs privés et publics. Comment vous analysez cette initiative?
Primo, nous, au niveau de la LECOCO, nous sommes partie prenante de ce pacte, étant donné que nous étions parmi les organisations expertes que le premier ministre avait invité pour analyser et mettre en œuvre ce pacte. Et de notre part, nous accueillons positivement la signature de ce pacte, mais maintenant, nous devons passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous devons élaborer les plans stratégiques, nous devons élaborer un plan opérationnel pour effectivement qu'on puisse s'attaquer aux cas de corruption que nous connaissons et qui souffrent de solutions dans les pays. Et c'est comme ça que nous, au niveau des organisations de la société civile, nous avons adhéré et nous voyons comment est-ce que les choses vont se passer.
Professeur Saint-Augustin Mwendambali, est-ce que vous êtes en ligne? Professeur Mwendambali? Décidément, nous avons quelques soucis avec la ligne du professeur Mwendambali. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo, également analyste politique. Vous avez suivi Ernest Mpararo, qui cite notamment parmi les causes de la corruption en RDC, la pauvreté, le manque de démocratie, les inégalités socio-économiques et politiques. Pour vous, quelles sont les causes?
Pour moi, la cause première de la corruption, c'est d'abord la crise morale généralisée qui caractérise notre pays pratiquement depuis l'accession à l'indépendance. Un peuple se définit d'abord par sa culture, c'est-à-dire par l'ensemble des valeurs sur lesquelles tout le monde est d'accord pour pouvoir organiser la vie en communauté, la vie collective. Et avant d'être une question structurelle, c'est d'abord donc une question culturelle et mentale. Dans les sociétés qu'on appelle démocratiques, les gens s'entendent pour considérer la corruption comme quelque chose d'inacceptable et d'inadmissible. Et donc, même s'il y a quelques brebis galeuses, la règle, la norme reste le refus de la condamnation de la corruption. Tandis que chez nous, la corruption est une chose qui est devenue normale, je dirais même normative. C'est même une norme. Et quand quelqu'un refuse de se laisser corrompre ou refuse de corrompre, les autres le considèrent comme un idiot. Et tout le monde se moque de lui. Un ministre qui ne vole pas, on dit ben il est bête, il va partir de là sans s'être enrichi. Et donc, c'est d'abord une question culturelle et mentale. Et c'est d'abord au niveau donc des valeurs qu'il faut se situer. Et ces valeurs, on les acquiert par l'éducation. Et cette éducation-là manque. Voilà donc, c'est d'abord une question de culture, une question de mentalité, et c'est par là qu'il faut commencer. Alors, la corruption, c'est ensuite une question de justice sociale. C'est-à-dire, la corruption, c'est ensuite une question de structure, de la manière dont la société est structurée. Et alors, je rejoins ce que M. Parolo disait à propos des salaires et du barème salarial qui est appliqué chez nous. Chez nous, il y a des gens, des fonctionnaires de l'État ou des agents qui ont dont le salaire correspond à peu près à ce qu'ils doivent payer pour leur transport. Et ils sont tous les jours au travail. C'est pas normal. Ça signifie que ces gens trouvent quelque part ailleurs de quoi combler ce déficit-là. Et comme tout le monde sait qu'ils sont mal payés, on trouve normal qu'ils puissent compenser le manque à gagner par la pratique de la corruption, qui leur travail devient leur gagne-pain. Et donc, ils s'arrangent, ils vont au travail parce que là, ils peuvent trouver de quoi compenser ce qu'ils n'ont pas. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que la corruption est devenue un sport national. Quand on sait que dans notre pays, 71% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, et que 48% des agents des cadres, 48% des agents des cadres sont mal payés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, qu'avec ce qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas vouer les deux bouts du mois, on comprend pourquoi la corruption est devenue un sport national. Le gendarme qui est au bord de la, qui est commis à la circulation routière, eh ben, il rançonne à tour de bras tous les chauffeurs, tous les conducteurs sur lesquels il tombe. Et tout le monde trouve ça normal. Il peut le faire aussi au vu de tout le monde et personne ne va bouger. Parce que c'est devenu donc un mal structurel, un mal systémique. Et donc c'est la deuxième, ça, c'est ce barème insuffisant, je le considère comme la corruption mère.
Monsieur l'abbé,
celle qui pousse les gens à corrompre et à se laisser corrompre et qui est devenue, si vous voulez, une situation structurelle, c'est un système, une situation structurelle normale.
Monsieur l'abbé,
il y a enfin, évidemment, la grande misère. La grande misère. Assez curieusement, on penserait que plus les gens sont pauvres, plus ils seront vertueux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'un homme est soumis à des conditions matérielles infrahumaines, il devient incapable de pratiquer la vertu. Et en fait, la pauvreté divise les gens. La pauvreté crée des réactions de survie, de sauve qui peut, de lutte pour la vie. Et dans une société où les gens sont pauvres, où il y a beaucoup de misérables, il n'y a pas moyen de combattre la corruption. Il n'y a pas moyen même de faire de prôner la vertu parce que les gens vivent dans le sauve qui peut. Il faut vivre absolument, il faut survivre. Et pour survivre, ils sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tous les coups, y compris donc à recourir à la corruption, y compris la violence, comme nous avons le phénomène Kuruna ici chez nous. Donc c'est un problème de, c'est ça qu'on appelle le problème de justice sociale, une redistribution des biens qui devrait combattre la pauvreté, pauvreté source de tous les vices, y compris aussi donc de la corruption et de la violence. Voilà donc pour moi les trois raisons. Donc la raison
structurelle
et mentale. La deuxième raison que j'appelle systémique et structurelle, donc un salaire anormalement bas. Et la troisième raison, ce que j'appelle la misère, qui est le produit d'une mauvaise redistribution des richesses du pays, de ce qu'on appelle les injustices sociales, les inégalités sociales.
Merci, M. l'abbé. Professeur Mwendambali, est-ce que vous êtes en ligne?
Je vous écoute, Radio Capi.
Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, OSEP, une structure qui dépend du ministère de la fonction publique. Professeur, le pacte national anticorruption a été signé lundi dernier. Professeur, quel sens vous donnez à cet acte qui a été posé?
Effectivement, la signature de ce pacte constitue une entrée officielle de la RDC dans la lutte contre la corruption, dans une optique holistique globale. C'est-à-dire en matière de lutte contre la corruption, il faut reconnaître qu'une seule entité ne peut pas arriver à aboutir à des résultats escomptés. Il faut une combinaison des corrompus qui sont supposés être agents publics de l'État, des corrupteurs qui seraient provenus de la société privée ou du monde des affaires et des médiateurs ou facilitateurs du côté des corrupteurs comme des corrompus qui pourraient éventuellement être quelqu'un qui proviendrait de la société civile. Il peut en même temps jouer le rôle de contrepoids, des critiques, des gouvernements, du monde des affaires par rapport aux pratiques de corruption constatées dans la société. Donc ces pactes ouvrent la voie libre aux mécanismes de lutte contre la corruption puisque aucun des partenaires ne va se réfugier derrière les arguments selon lesquels la balle se trouve dans le camp de l'autre et pas dans mon propre camp puisque les trois aux parties prenantes à la signature du pacte anticorruption. Mais j'aimerais ici revenir aux causes de la corruption qui ont été avancées par mon ami Palero Ernest, appuyé en partie par M. l'abbé Mungaruka. À tous les deux, je dis bonsoir au nom de cette corrélation. Je dirais la pauvreté des salaires, la précarité des salaires, le systémisme et la corruption ne constitueraient pas à eux seuls les causes profondes de la corruption dans notre pays. Moi, je suis en train de penser, et je peux l'affirmer, nos grands arrière-pères étaient pauvres, mais pour autant, à leur époque, il n'y avait pas des pratiques de corruption. Donc, l'argument des pauvretés est à exclure, pas totalement, puisque la pauvreté peut faciliter l'accès à la corruption, mais ne justifie pas la corruption. Moi-même, je suis un pauvre, issu d'une famille pauvre, où j'ai vu mon papa gérer des bassines de minerais d'une société d'exploitation minière, de l'or, MGL Kamituga. Mon papa est mort pauvre. Il nous a laissé rien. Pas même une maison en dur, en matériaux durables. Mais l'éducation que nous avons reçue de ses pères nous a beaucoup marqué, nous a conduit durant le cheminement de notre vie. Au point, le respect des biens communs devient pour nous une espèce d'hymne national.
Professeur. Professeur, on vous a suivi dans une interview que vous avez accordée à Radio Okapi. Vous avez déclaré que la signature de ce pacte traduit la concrétisation pour le gouvernement de son engagement vis-à-vis des instruments internationaux de lutte contre la corruption. Ne peut-on pas craindre, professeur, que ce soit une fois de plus une initiative qui vienne de l'extérieur pour plaire aux bailleurs de fonds?
Une question pertinente. Le Premier ministre y a répondu. Au cours de son intervention, dans son discours clôturant la cérémonie de signature des pactes anticorruption, le Premier ministre Matata Ponyo disait ceci en ce terme. La lutte contre la corruption ne doit pas être imposée de l'extérieur. Et le Premier ministre a répondu. Si vous-même vous n'intériorisez pas les conséquences de la corruption sur le développement des tissus socio-économiques de la nation, les ravages que la corruption sème, si vous n'estimez pas que ces ravages ne constituent pas un danger, même l'imposition de l'extérieur n'aura pas des effets positifs sur le changement des comportements. Il faut d'abord une prise de conscience personnelle et ensuite collective qui montre que la corruption est un ennemi qui peut conduire à la criminalité, à l'augmentation des taux de mortalité. La corruption conduit à la pauvreté, aux inégalités sociales. Et si nous réalisons cela, qu'il y a un gain, une perte énorme pour la nation, pour le bien-être de la population, la corruption ne peut pas nous être imposée de l'extérieur.
Merci.
Nous devrions dire d'ailleurs que ces mots n'a pas existé dans nos communautés avant l'arrivée de l'esclavage.
Merci, professeur.
Du colonialisme.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Ernest Mpararo, vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Vous avez salué positivement ce pacte national, la signature de ce pacte national anticorruption, mais une fois de plus, la crainte n'est-elle pas que ce soit des initiatives qui viennent de l'extérieur et que les Congolais ne savent pas s'approprier, c'est juste pour plaire à ceux qui financent ces genres de projets?
Effectivement, c'est ça notre crainte. Comme vous le savez, il y a le Premier ministre qui était à Washington pour négocier avec le FMI. Et parmi les conditionnalités qu'on lui a données, on lui a effectivement demandé qu'il puisse promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption au pays. Ce qui fait que depuis son installation, depuis 2006, nous ne cessons de dire qu'il y a manque de volonté politique pour effectivement combattre la corruption, parce que dans d'autres pays, il ne faut pas signer de pacte pour qu'on puisse combattre la corruption. Mais ici, chez nous, effectivement, là où il n'y a pas de volonté politique, on a pu signer un pacte pour effectivement montrer aux yeux de l'opinion nationale que non, le gouvernement est engagé, alors que nous savons que depuis 2011, Je ne sais pas s'il y a un cas de corruption que le gouvernement a déjà traité, et nous ne cessons jamais de dénoncer des cas de corruption que le gouvernement, effectivement, ne punit pas. Il y a beaucoup de cas que nous avions apportés au niveau des institutions étatiques, au parquet, mais ces cas-là restent jusqu'aujourd'hui impunis. Et parmi ces cas, par exemple, nous pouvons citer les cas de contrats chinois. Vous savez, il y a des routes qui ont été réhabilitées, qui sont en réhabilitation jusqu'aujourd'hui, et nous avions pu constater qu'effectivement, qu'il y a surfacturation de tous les travaux de ces routes. Nous avions porté, nous avions écrit au ministre des Affaires, nous avions écrit au ministre, au premier ministre lui-même, il nous a répondu que non, ils vont confier les dossiers au niveau des institutions concernées, mais jusqu'aujourd'hui, zéro. Il y a des cas, par exemple, de tous les frais que les parents et que les étudiants payent dans les universités, dans les écoles secondaires. Nous avions, au sens, nous avions écrit au niveau du ministère du budget, au niveau d'abord du premier ministre. Le premier ministre nous avait répondu qu'il va confier la situation au niveau du premier ministre. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, et nous, moi et nous, mais le professeur Mwendambali est là, il sait que dans les instituts supérieurs, il y a toute une magouille énorme qui se passe. Qui finit le directeur général des instituts supérieurs? Qui va finir le recteur? Personne. L'abbé Mugaruka est lui-même professeur, il connaît la situation. Qui doit faire ça? C'est le premier ministre. Donc nous, au niveau de la LICOCO, nous pensons, nous restons attentifs, nous n'adhérons pas à ces pactes pour y adhérer. Effectivement, nous y allons, effectivement, pour amener le gouvernement à agir. C'est dans ce sens-là que nous avions adhéré à ces pactes-là. Et si nous constatons que le gouvernement n'agit pas, nous, au niveau de la LICOCO, nous allons démissionner de ces pactes pour montrer notre désapprobation.
Ernest Mpararo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Je suis David Demouliri, résident à Goma, en province du Nord Kivu. Le problème de la corruption au Congo n'est pas un problème d'instruments légaux en la matière. C'est une culture congolaise de mauvaise gouvernance et de perpétuation des antivaleurs dans le but des enrichissements illicites.
J'ajoute, Ernest Mpararo, la réaction de Salomon Zaïga de Bukavu Sud Kivu qui dit « La signature de ce pacte ne va rien changer. Les autorités doivent montrer leur volonté à mettre un terme à la corruption en améliorant le social et en traquant les coulounes en cravate. Sinon, signer ce pacte, ce n'est qu'une formalité simple, Ernest Mpararo. »
Effectivement, c'est ce que nous venons de dire, effectivement, que nous, au niveau de la LICOCO, nous voulons, nous y allons, nous avons adhéré à ce pacte pour voir vraiment tester la volonté du gouvernement. Étant donné qu'il y a beaucoup de dossiers qui restent pendants, qui sont en souffrance, et que le gouvernement devait s'attaquer à cela. Il y a beaucoup de dossiers que nous avons, que nous pouvons montrer. Il y a les faits, d'abord, il y a très longtemps, on a publié les rapports ici. Il y a eu des écarts où il y a des millions que la DGRAD ne peut pas justifier. Qu'est-ce que l'État fait par rapport à ces écarts-là? Est-ce qu'on a déjà puni tous ces gens-là? Et c'est comme ça que nous y adhérons, pour tester est-ce que le gouvernement, cette fois-ci, est sincère. Est-ce qu'il ne le fait pas, effectivement, pour plaire aux bailleurs de fonds, pour plaire au FMI, pour plaire à la Banque mondiale, qui résigne à leur donner des fonds parce qu'ils gèrent mal les pays.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous aimez bien ce pacte national anticorruption, mais il faut passer au concret. Pour vous, le concret, c'est quoi?
Le concret, cela veut dire qu'on puisse maintenant mettre des choses au sérieux, et qu'on puisse nommer des juges pour traquer tout l'enrichissement, tout ce qui a comme acte de corruption, par exemple, ceux qui détournent leurs fonds, ceux qui fraudent, ceux qui s'adonnent au blanchiment d'argent, comme vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui construisent aujourd'hui à Kinshasa, alors que vous leur demandez où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent, ça sera une question tellement difficile à répondre. Donc tous ces cas-là doivent être traités, et qui va les traiter? Est-ce qu'on a donné des moyens aux magistrats, aux inspecteurs de police? Tous ces cas-là doivent être traités au niveau des structures étatiques autorisées. Et ce que nous voulons, c'est qu'on puisse arriver à juger et à sanctionner des gens pour, effectivement, des cas de corruption. Comme vous le savez, il y a 10 ans, on n'a jamais vu un ministre être arrêté. On a pour cas de corruption ou est jugé pour cas de corruption. Il n'y a pas de généraux qui sont arrêtés alors qu'ils ont cité dans beaucoup de cas. Il n'y a pas de directeurs généraux qui sont arrêtés pour des cas de corruption. Et lorsqu'on les arrête, ils sont là pour quelques temps et après 2 jours, on les libère. Donc c'est pour nous masquer. Donc nous voulons effectivement voir le gouvernement passer à l'étape suivante, pas pour les discours, mais pour les actes concrets.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, il y a votre collègue le professeur Victor Okombe qui nous écrit de Lubumbashi au Katanga qui dit « L'impression que j'ai, c'est celle selon laquelle notre gouvernement esquive de s'engager avec détermination dans la lutte contre ce fléau. Dans ce pays, on n'a pas besoin de gesticulation, on n'a pas besoin de pacte pour s'attaquer à la corruption. Elle est dans tous les coins et tous ses artisans sont visibles et connus. Le gouvernement doit prendre son courage comme il a instauré la bancarisation pour enfin se lancer dans la lutte contre la corruption. Il ne faut pas pour cela beaucoup de cérémonies inutiles comme des signatures de pacte, M. l'abbé.
Oui, je pense qu'effectivement, il faudrait passer aux actes. Tout le monde sait qu'il y a un des maux qui gangrène notre pays et qui empêche notre pays de démarrer sur le plan économique et social. Qu'un des maux qui empêche la cohésion sociale, c'est justement la corruption, qui permet à, notamment à, aux détenteurs du pouvoir de s'enrichir sans cause et sur le dos du peuple. Alors, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, effectivement, c'est de mettre sur pied une structure relevant de la justice. Une justice, donc, du pouvoir judiciaire, un pouvoir judiciaire indépendant, pour pouvoir traquer la corruption. Cette structure-là devrait procéder, évidemment, de façon que je pourrais appeler institutionnelle et systématique, et procéder, donc, au contrôle de la gestion de tous les services publics générateurs de recettes. On devrait avoir des magistrats chargés uniquement de cela. Ils seraient chargés donc d'abord de contrôler la gestion des finances publiques, mais aussi de l'enregistrement des doléances des citoyens victimes de la corruption. C'est-à-dire des gens qui sont obligés de devoir payer d'une manière injustifiée et inique et illégale des taxes qui ne sont pas réglementaires. Donc, il faudrait une structure de lutte contre la corruption et cette structure devrait être intégrée au pouvoir judiciaire. Donc, des magistrats qui seraient commis au contrôle de la gestion des finances publiques et avec un pouvoir réel de pouvoir sanctionner de manière à pouvoir lutter contre le laxisme et l'impunité qui se sont installés, qui ont élu domicile dans notre pays. Il est évident que si on instaure de tels magistrats, il faudra commencer par les mettre eux-mêmes à l'abri du besoin. Et aujourd'hui, nos magistrats sont très mal payés, on le sait, et ils ne sont pas dans les conditions où ils se trouvent aujourd'hui capables de déclencher eux-mêmes une lutte efficace contre la corruption.
Monsieur l'abbé,
quelqu'un a parlé de la bancarisation. Eh bien, ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour traquer la corruption chez les autorités, chez les responsables publics? Eh bien, d'abord, il y a pour ce qui est des ministres et des hauts fonctionnaires la nécessité, l'obligation de déclarer leurs avoirs avant, à un moment où ils entrent en fonction et aussi au moment où ils sortent de leur fonction. De telle façon que si leur avoir a augmenté de manière démesurée, on puisse leur demander de justifier d'où est venu cet argent-là. Dans les pays où la bancarisation si vous voulez, où tout le monde met son argent à la banque, où les gens ne sont même pas autorisés à se promener avec des espèces au-delà d'un certain seuil, dans ces pays-là, chaque fois que quelqu'un a des rentrées de fonds, eh bien, il doit justifier le pourquoi, la source, l'origine de ces fonds-là.
Monsieur l'abbé.
Oui.
Monsieur l'abbé, il y a un auditeur qui nous a appelé de Goma, qui partage dans une certaine mesure votre point de vue sur la structure, mais qui est un peu plus nuancé. Nous allons l'écouter.
Taleba Kangela Godefoua depuis Goma, au Nord Kivu. À mon avis, la mise en place d'un comité très sérieux chargé de recenser tous les cas d'enrichissement sans cause et de traduire les auteurs devant les cours et tribunaux serait un mécanisme efficient pour éradiquer la corruption en RDC. Or, il me semble que le pouvoir en place de faire ça actuellement, ça serait se faire un harakiri. Je pense donc que la lutte contre la corruption, c'est un vœu pieux, voire de la poudre aux yeux.
Réaction, monsieur l'abbé. Brève réaction, je vous en prie.
Donc justement, c'est de ça que je parle. Une structure, ça peut être un comité, ça peut être des magistrats, en tout cas des gens qui sont attachés au pouvoir judiciaire et qui ont comme fonction de traquer la corruption, cela au niveau en particulier de ce qu'on appelle les clowns en cravate, c'est-à-dire de ceux qui gèrent les finances publiques. Il faudrait absolument qu'on ait cela et que cette structure aille de la tête jusque au pied, si vous voulez, de l'organisation de la hiérarchie nationale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait cela au niveau national, au niveau provincial, et même au niveau des entités décentralisées, notamment au niveau local, au niveau des collectivités et des communes. Qu'il y ait donc des gens, des messieurs propres, messieurs contrôle de la gestion des finances publiques, afin d'éviter les enrichissements sans cause et la corruption. D'ailleurs, souvent, ailleurs, quand on attrape des gens en train de voler, c'est lorsque quelqu'un fait, il a des biens ou il a de l'argent dont il ne peut justifier, il ne peut expliquer l'origine.
Merci.
Si cet argent, c'est de l'argent honnêtement gagné, il devrait être capable, non pas de le dire à tout le peuple, mais au moins à se justifier devant ce comité-là, qui aurait donc des ramifications jusque de la tête donc du niveau national.
Merci, Monsieur l'Abbé. Professeur Saint-Augustin Mwendambali, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Amos Bissima de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Vouloir combattre la corruption en RDC est une bonne chose, mais la tâche est difficile car les institutions qui sont censées mettre fin à cette pratique la favorisent. Comme la corruption bat son plein, il sommet à la base. Il faut une justice qui n'est pas au service de quelqu'un afin de poursuivre tout le monde impliqué sans exception aucune.
Réaction, professeur, il est donc difficile de combattre la corruption en RDC. Professeur Mwendambali. Professeur, nous l'avons une fois de plus perdu. Professeur, vous nous suivez? Voilà, non, il n'est pas en ligne. Ernest Mpararo, il est difficile de lutter contre la corruption, dit Amos Bissimwa, car les institutions qui sont censées mettre fin à cette pratique la favorisent.
Ernest Mpararo. Les dénonciations qui viennent du peuple, non pas de manière naïve, mais en pré...
Ernest Mpararo, est-ce que vous nous suivez? Voilà, décidément, on a quelques soucis, Monsieur l'Abbé Mugaruka.
Et poursuivre les coupables.
Voilà, Monsieur l'Abbé Mugaruka, les auditeurs sont dubitatifs malgré la structure qui pourrait être créée, mais ils pensent pour la plupart que les institutions qui sont censées mettre fin à cette pratique la favorisent en RDC, et donc il est difficile de mettre fin à cette pratique.
Mais justement, c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire devrait être un pouvoir indépendant, de telle façon que ces gens-là qui sont commis, ces magistrats qui sont commis à la traque de la corruption, ne soient pas dépendants justement de ceux qu'ils doivent contrôler. La magistrature, notre jury d'ailleurs, la Constitution le prévoit, la justice doit être indépendante et fonctionner de manière à ce qu'elle ne doive pas recevoir les injonctions de ceux et qu'elle doit contrôler, notamment du pouvoir exécutif, tous ceux qui sont de l'exécutif et tous ceux qui appartiennent au législatif devraient dépendre du judiciaire et être soumis donc à son contrôle, et un contrôle rigoureux, un contrôle suivi de telle manière que tout se passe dans la transparence et dans la justice. Parce qu'il faut craindre que le déclenchement de la lutte contre la corruption dégénère lorsque elle se fait de manière arbitraire et de manière à la légère. Il faut que ce soit quelque chose de très rigoureux et de bien institutionnalisé.
Merci, Monsieur l'Abbé. Voilà, Ernest Mpararo, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne, oui.
Voilà, il y a Thierry Makiese qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Une signature, je ne pense pas qu'elle pourra changer grand-chose. La République doit trouver une autre formule pour éradiquer la corruption, car si seules les signatures pouvaient améliorer des choses dans ce pays, celui-ci irait déjà très loin. Nous sommes là dans les solutions, une fois de plus. »
Effectivement, comme nous l'avions toujours dit, c'est d'abord, lorsque le gouvernement a signé le pacte, c'était effectivement pour montrer qu'ils sont engagés. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste sur la théorie, sur la signature. Il faudrait effectivement qu'on passe aux actes concrets. Effectivement, dans d'autres pays,
qui sont des pays normaux, il y a des structures qui luttent. Lorsqu'il y a, par exemple, on soupçonne qu'il y a des actes de corruption, directement la machine est lancée, il y a des investigations, et lorsque les investigations aboutissent à des infractions, on arrête et on juge. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas, étant donné que les politiques qui sont en place ne veulent pas que les choses marchent. C'est comme ça que nous adhérons avec le gouvernement. C'est une opportunité, c'est une fenêtre qui nous est offerte pour effectivement leur dire, écoutez, voici tel cas, voici tel cas, voici tel cas, et regarder et tester leur volonté politique. Mais nous ne sommes pas sûrs et certains qu'effectivement que cette signature va arranger les choses. Nous ne le disons pas comme ça. C'est une dynamique qui est mise en place, c'est un processus, et nous allons voir maintenant, évaluer ces processus.
Alors, Ernest Mpararo, il y a ingénieur Kaji Baganda qui nous écrit de Kampala en Ouganda, qui dit, avant de lutter contre la corruption en RDC, nos autorités politiques doivent en parler d'abord entre eux, car ce sont eux qui créent cette situation, Ernest Mpararo.
Bon, je ne pense pas que c'est de cette façon-là, parce que nous avons des lois, et les lois sont claires. Lorsqu'il y a des actes de corruption, ces actes-là doivent être punis et sanctionnés. Et lorsque nous nous disons être dans un état de droit, nous devons faire appliquer la loi. Et lorsque les gens n'appliquent pas la loi, effectivement, c'est tout un problème. Et c'est là où les politiques, lorsqu'ils n'appliquent pas la loi, il y a un cadre où on doit en parler pour dire pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces lois-là. Et c'est ça le rôle des politiciens que nous avons. Malheureusement, les politiciens ne voient pas tout cela comme il le fallait. Ils voient leurs petits intérêts qui sont mis en jeu. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que ces pactes-là, est-ce que lorsqu'on combattre la corruption, moi-même je ne serai pas victime. C'est ça, tout ces combines qui sont vues, et c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas.
La réalisation me signale qu'on ne parvient plus à joindre le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle OCEP, une structure qui dépend du ministère de la fonction publique. Et je rappelle en passant qu'il nous reste moins de 8 minutes pour terminer cette émission. Monsieur l'abbé Mugaruka, vous insistez sur le fait qu'il faut une structure qui puisse traquer la corruption avec des magistrats chargés à cet effet. Mais il y a par exemple la structure comme l'OCEP. Quelle place vous donnez à une structure comme celle-ci?
Comme
l'OCEP que représente le professeur Mwendambali. L'OCEP,
l'organisation.
L'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, cette structure chargée de lutter contre la corruption et qui dépend du ministère de la fonction publique.
Eh bien, dans la démocratie, toutes les structures ou les institutions d'appui à la démocratie doivent inclure et à s'assurer de la participation de la société civile. Et c'est tout à fait normal que la société civile puisse disposer des organisations comme celle-là qui sont chargées justement de pouvoir transmettre au pouvoir, et ici en particulier au pouvoir judiciaire, le ressenti de la population par rapport à la réalité de la corruption. Et donc, les simples citoyens que nous sommes devraient avoir la possibilité, chaque fois qu'ils constatent qu'il y a corruption, de pouvoir s'adresser à un organe, à une institution ad hoc ou à un comité ad hoc qui relève du pouvoir judiciaire. Et je pense que c'est très très important. Parce que si vous n'avez pas des organisations de la société civile, qu'est-ce qui va se plaindre? Qu'est-ce qui va porter plainte? On ne veut pas s'attendre à ce que les voleurs eux-mêmes se dénoncent. Et donc il faut que ce soit plutôt les victimes de vol, les victimes de la corruption qui puissent avoir la possibilité de pouvoir exprimer leurs doléances, leurs plaintes et leurs revendications dans ce sens-là. Et donc il faudrait plutôt que d'ailleurs de limiter ces organisations, il faudrait les multiplier et surtout les faire fonctionner à tous les niveaux jusqu'à la base.
Monsieur l'abbé, il y a Kassamba qui nous écrit de Bouya en province orientale qui dit « Chassez le naturel, il vous reviendra au galop ». Ceci dit, la corruption en RDC est devenue congénitale du fait de l'impunité à telle enseigne que toute tentative de la combattre sera vaine. Vous avez évoqué la question de l'éducation. Doit-on déjà à la base enseigner la lutte contre la corruption dans notre programme scolaire par exemple?
Non seulement dans le programme scolaire, mais je pense que cette campagne-là de l'éradication de la corruption devait faire appel à toutes les forces vives de la nation qui sont chargées de l'éducation populaire, en commençant par la famille. au niveau de la famille. Il faudrait déjà que les parents, les familles soient organisées pour assurer aux enfants cette éducation à la lutte contre la corruption qui fait partie de ce que j'appelle tout simplement l'éducation à la citoyenneté. Il faut que cela se fasse au niveau des écoles. Le système scolaire devrait intégrer cela dans ses programmes. Et de le faire de manière systématique. Il faudrait que les églises, les confessions religieuses qui sont chargées de l'éducation populaire intègrent cela de manière systématique dans leur enseignement. Il faudrait que les partis politiques, qui sont des organisations d'encadrement des masses et d'éducation civique, puissent s'occuper de cela. Il faudrait que les médias que vous êtes, et les médias aussi bien privés que publics, s'occupent, prennent à cœur la lutte contre la pauvreté, la presse écrite, la presse orale, c'est pratiquement... Et alors aussi, et enfin, l'administration, c'est-à-dire l'État lui-même, devrait pouvoir intégrer dans son organisation ce contrôle, cette éducation à l'honnêteté, merci, en punissant justement les fauteurs de troubles, les corrompus et les corrupteurs.
Merci.
Donc c'est un programme d'éducation générale, d'éducation collectif qu'il faudrait déclencher.
Merci, M. Labbé. Il nous reste moins de 4 minutes. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour la conclusion. Ernest Mpararo, vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Ernest Mpararo, l'abbé Mugaruka a mis l'accent sur l'éducation. Il faut une vaste campagne d'éducation au niveau de la société civile, au niveau de presque toutes les instances, mais on a l'impression qu'en RDC, ça ne fait tellement, ce n'est pas vraiment une priorité.
Bon, effectivement, je suis d'accord parce que même la Convention des Nations Unies contre la corruption met en exergue l'éducation, la prévention, des mesures préventives, dont l'éducation, la sensibilisation, ainsi de suite. Mais avec le degré de corruption que notre société a atteint, il faudrait lier la prévention, c'est-à-dire l'éducation à la sanction, pour effectivement montrer à la population que tout acte de corruption sera puni, tout en demandant, tout en éduquant, tout en formant, tout en sensibilisant, tout en faisant tant d'actions pour prévenir la corruption. Mais nous, au niveau de la LICOCO, nous continuons toujours à demander, sans implication de politique, des chefs de l'État, du Premier ministre, et concrètement, même si nous faisons des formations, des mesures de sensibilisation, rien ne sera. Comme vous le savez, dans toute société, ce sont les leaders qui transforment ces sociétés-là. Or, chez nous, ce sont les leaders, c'est le chef de l'État, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, tous ces leaders-là doivent se mettre ensemble pour dire trop c'est trop, nous en avons marre, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, nous commençons, celui qui sera pris, il sera châtié, tout en mettant en place effectivement des mesures dans les écoles, en famille, à l'église, par-ci, par-là, pour effectivement prévenir et donner aux gens les conséquences même de la corruption. Mais nous pensons que les leaders politiques que nous avons aujourd'hui doivent s'impliquer et pas par des mots, par des actes. Donc jusqu'aujourd'hui, nous continuons à attendre d'abord les promesses du chef de l'État qui a demandé qu'il va nommer un conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption. Nous continuons à attendre la stratégie mise en place pour effectivement combattre la corruption parce qu'il s'est engagé et nous restons à notre soif jusqu'à ce que nous puissions voir le chef de l'État lui-même s'engager concrètement dans cette mission. C'est comme ça qu'il
peut
changer notre société.
Merci Ernest Mpararo. Monsieur l'abbé Mugaruka, en guise de conclusion, la corruption zéro pourrait-elle être une réalité en RDC, brièvement?
Corruption zéro n'existe nulle part au monde et donc dans toutes les sociétés, on essaye justement d'atteindre cet objectif-là. Ce que nous devions faire justement, c'est de commencer et pour moi, ce qui me paraît prioritaire pour le moment, c'est de mettre en place une structure qui, à tous les niveaux de l'administration et de la vie du pays, une structure attachée au pouvoir judiciaire chargée de la lutte contre la corruption.
Merci.
Et cette structure devrait faire un travail évidemment de prévention, d'éducation, mais aussi et surtout essentiellement un travail de abstention.
Merci, Monsieur l'abbé Mugaruka. C'est par vous que nous terminons cette émission. Malheureusement, nous avons perdu en cours le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'OSEP, une structure qui dépend du ministère de la fonction publique et qui lutte contre la corruption. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.